Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 717 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, comme quasi toutes les semaines cette année d'ailleurs. Pour cette preview du Divisional Round, je retrouve mon comparse de toujours, Victor Roulier. Salut Victor.
Bonjour Raoul, bonjour à tous.
Au programme, mesdames et messieurs, pas de débat, on est concentré sur les matchs de ce week-end. On passe en revue les 4 matchs du Divisional Round. On fera quand même un point sur les meilleures cotes. Et puis, bah, voilà le programme. Hein. Est-ce que Victor, tu es prêt ?
Je suis prêt.
Alors, c'est parti.
Top line on 3, 1, 2, 3, top line.
Donc, on l'a dit, cette semaine, c'est à fond sur la preview. On va vous présenter les 4 affiches de la semaine. Mais avant ça, comme chaque semaine, je suis obligé de faire un point sur le score des pronos de la rédaction. Et comme chaque semaine, c'est de plus en plus difficile à faire pour moi, puisque je n'arrête pas de couler, c'est la catastrophe. Heureusement que je t'ai suivi sur Tampa Bay, Victor.
Faute de vous avoir dit à tous de mettre Tampa Bay. Personne ne l'a dit.
Je t'ai écouté bien malgré moi et j'ai bien fait, donc déjà merci pour ça. Mais donc, Alain et moi, on finit à 4 sur le Wildcard Weekend. Greg est à 6. Et Raphaël, Lucas et toi, Victor, vous êtes à 8. Tout peut encore se jouer partout. Le titre n'est pas définitif, enfin, n'est pas encore acquis. La descente en Ligue 2, si tant est qu'une telle chose existe, n'est pas encore jouée non plus. Puisqu'au total, au niveau des points, ça donne 190 pour toi, Victor, en tête. Lucas est à 186, soit 4 points derrière. Raphaël vole le podium à Alain avec 183. Alain, donc 180. Greg, 173. Et je suis à 164. Techniquement, donc, je peux revenir techniquement, hein, puisque chaque prono vaut 2 points. Et donc, soit j'arrive à me refaire en faisant presque n'importe quoi tout le temps, soit ben, c'est fini. On verra ce que ça donnera. Mais on va commencer cette semaine de preview avec le premier match qui nous intéresse. Ce sera le match de samedi à 22h30 entre les Texans et les Ravens. Les Texans qui retrouvent cet horaire, mais cette fois-ci à l'extérieur, chez Baltimore. Ça va être un peu le sujet du podcast là, sur les deux premiers matchs, Victor, puisque... les Ravens, tout comme les Niners dont on parlera ensuite, n'ont pas joué, en tout cas pour les titulaires, depuis 3 semaines. Première question, qu'en est-il de l'état de forme de ces joueurs stars dans l'effectif de Baltimore?
Bah écoute, c'est vrai qu'en plus, il y a deux aspects, je dirais. Non seulement ils n'ont pas joué depuis 3 semaines, ils vont affronter une équipe un peu surprise, les deux d'ailleurs, qui a joué un match quasi parfait la semaine dernière. Donc, qui est en pleine confiance, qui est vraiment sur une belle dynamique. Cette équipe de Baltimore, on va dire que ça ne fait pas de mal non plus d'avoir eu un peu de repos, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de joueurs fragiles. Il faudra évidemment faire attention à prendre le rythme. Le vrai problème, ça va être le premier quart-temps, en fait, pour cette équipe. Mais globalement, sur le papier, et ce n'est pas faire injure aux Texans, les Ravens sont supérieurs partout, globalement. Mm. Sur des trois lignes de défense, sur la ligne offensive, sur des receveurs, sur le quarterback, sur le coureur. Donc,
et le coaching staff, si on veut aller au bout.
Et même le coaching staff qui est beaucoup plus expérimenté. Donc pour moi, globalement, ils ont tout à perdre, on va dire. Malheureusement, on l'a vu sur des saisons précédentes, ils sont capables de le faire, hein, de perdre quand ils sont ultra favoris. Mais globalement, ils doivent prouver que leur domination de saison régulière peut continuer en play-off. Parce que globalement, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est tellement supérieure à peu près tous les niveaux qu'elle doit dominer sur les lignes, dans les tranchées, et vraiment gagner ce match comme un combat de boxe, si tu veux, où tu as un adversaire valeureux en face. Mais tu es censé donner des coups et des coups et des coups, et puis à la fin, il va finir par se coucher, quoi. C'est ça l'objectif.
Alors, sur le match en particulier, on a dit la semaine dernière que la marche était peut-être un peu haute pour la jeune attaque de Houston face à l'excellente défense des Browns. Finalement, ça a été plutôt bon pour les Texans. Est-ce que pour toi, le challenge est encore plus élevé face à la défense de Baltimore cette semaine ?
Je pense oui, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu de la défense de Cleveland la semaine dernière. Mais par contre, ce qui est vrai et ce qui s'est illustré contre les Browns, c'est que c'est une des équipes les mieux coachées de la ligue, avec le fameux Slowick, coordinateur offensif très à la mode. On a bien vu qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que Stroud est extraordinaire. Mais la ligne offensive n'est pas top. Singletary est un bon running back sans être une star. Et au niveau des receveurs, avec la blessure de Tank Dell, on a Nico Collins qui est une star. Et derrière, c'est pas des inconnus, des Dalton Schultz, etc. On les connaît, mais c'est pas des méga stars. Et en fait, tout le monde est tellement bien coaché, et c'est tellement ce qu'il a à faire, que ça donne l'impression d'une machine inarrêtable. Donc clairement, il va falloir qu'ils gardent ce mojo. Ils ont peur de personne. Ça, ils l'ont montré. Je veux dire, Cleveland est arrivé, on s'est dit, ah, ils vont peut-être jouer petit bras, ils sont arrivés, tu rigoles. Houston a joué comme s'ils étaient à entraînement. Il va falloir garder cet état d'esprit, en fait. Il faut continuer à marcher sur l'eau. Mais c'est sûr que là, tu affrontes une défense peut-être encore plus complète et encore plus punitive. C'est-à-dire que là, au niveau des pertes de balles, etc., la moindre erreur va se payer cash. Donc, faudra faire attention à ça, mais globalement, je ne vois pas pourquoi Houston ne pourrait pas être fort offensivement.
Alors, la semaine dernière, tu l'as dit, hein, c'est une excellente prestation de l'attaque au global. CJ Stroud, en point focal de cette attaque, réussit 274 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Maintenant, alors, au-delà de ça, c'est quelque chose qui est assez notable par rapport à d'autres quarterbacks qu'on a vu trouver des receveurs très ouverts sur ce week-end de wildcard. Lui réussit à des lancers à des mecs qui sont un peu au milieu du trafic, juste par-dessus la ligne défensive de Cleveland. Donc il est complètement dedans et ça marche bien. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète pour les Texans, c'est pas tant la défense de Baltimore, mais c'est l'attaque de Baltimore. Victor, c'est la plus prolifique cette année en termes de yards au sol. Ils mettent quand même 156 yards par match. Est-ce que Houston est capable de tenir ce rythme ? C'est peut-être moi ça qui m'inquiète un peu plus.
Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'ils savent mettre la pression en termes de pass rush. Ils savent, on va dire, contenir des attaques moyennes ou moyennes plus. Là, c'est le niveau au-dessus. Je veux dire, par exemple, Cashman, linebacker, qui fait une excellente saison. C'est un très bon middle linebacker, mais est-ce qu'il est assez rapide pour être espion sur Lamar Jackson ? La marche est un peu haute. Lamar.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que Lamar Jackson, c'est quand même 820 yards au sol, mais c'est tout de même 3678 yards dans les airs et 24 touchdowns, seulement 7 interceptions. En fait, pour une défense, c'est super dur à défendre. Parce que, oui, longtemps, on lui reprochait d'être un coureur uniquement, mais cette année, il est capable d'envoyer dans les airs aussi. Il a des cibles pour le faire.
Ben, c'est surtout ça qui a changé.
Ouais.
C'est qu'il a des cibles pour le faire, ce qui n'a pas toujours été le cas. À une époque, son receveur 2, c'était Duvernay, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, avec tout respect, hein, que j'ai pour ces grands joueurs. Mais c'est sûr que là, quand ton receveur 3, c'est Odell Beckham, bon, déjà, ça veut dire que ton attaque est plutôt fournie. Alors, quid, même si apparemment, ça ne sera pas pour ce match-là, mais Mark Andrews pourrait même revenir pendant les playoffs. Alors, si Mark Andrews revient alors qu'il était annoncé out, là, c'est la surprise ultime. Mais même à sa place, Isaiah Likely fait plutôt une bonne saison. Donc, oui, il a plus d'armes qu'il n'en a jamais eu. C'est-à-dire qu'on dit souvent Lamar, il a choke en playoff. En vrai, Lamar, il a perdu deux matchs en playoff, dont un seul où il a vraiment choke. L'autre, c'est l'équipe dans son entièreté qui a été assez suboptimale, on va dire. Mais là, c'est l'occasion pour lui, avant de recevoir son deuxième MVP, là, c'est l'occasion pour lui de dire « Regardez, je ne suis pas que un quarterback de saison régulière, mais je suis aussi un quarterback de playoff. » Et honnêtement, là, il a beaucoup moins d'excuses que les années d'avant parce qu'il a les cibles, il a la ligne, il a tout ce qu'il faut.
J'ai le rapport des blessures sous les yeux de mardi, qui est le plus récent au moment où on enregistre, nous, mercredi. Et donc, vous avez le podcast dans vos oreilles au plus tôt jeudi. Mark Andrews, c'est les participations limitées à l'entraînement.
Oui, mais je pense que ça va faire court. Honnêtement, ouais. S'il revient, ça sera sûrement là.
Il vaut mieux le garder frais, peut-être pour la finale de conférence éventuelle. C'est un pari à prendre, mais... J'imagine que les Ravens sont peut-être prêts à le prendre. On a parlé, tu as mentionné en tout cas, la capacité des Ravens à provoquer des pertes de balles et mettre la pression. C'est 60 sacks sur la saison pour Baltimore, c'est 31 ballons volés. En match de playoff, c'est des stats qui font peur quand tu joues en face. Et moi, je pense que c'est des choses qui vont embêter un peu les Texans. Pas tant les pertes de balles forcément, parce que les Texans ont été plutôt propres cette année. En revanche, les sacs, je suis un peu plus inquiet pour Stroud, à voir si c'est quelque chose qui peut enrayer la machine. Mais voilà, Houston n'a jamais joué de finale de conférence. Est-ce que c'est la bonne année pour toi pour aller au bout? Quel est ton pronostic sur ce match, Victor?
Ah bah, ils n'ont jamais été en aussi bonne position. Enfin, je dis ça, si. Ils ont mené 24-0 contre les Chiefs en divisional il n'y a pas si longtemps, avant de réussir à perdre ce match. Désolé Texan, mais alors là je vais pas prendre de risque, je vais miser sur les Baltimore Ravens.
Est-ce qu'il y a un élément peut-être qu'on peut identifier qui peut donner un motif d'espoir aux Texans?
La capacité de Baltimore à être sous-optimal en playoff,
ouais.
et un côté un peu plafond de verre après, voilà, mais c'est pas impossible. Globalement, sur les 8 équipes, moi, j'en vois 7 qui peuvent aller au Super Bowl. Je parlerai de la 8e en temps voulu.
Oui.
Mais globalement, oui, sur un match, tout peut se passer, mais Baltimore semble quand même très, très blanc.
Je pense que c'est le seul pronostic qu'on va avoir en commun cette semaine. Moi, de toute façon, je vais tenter des dingueries. Mais celui-ci, c'est le seul pour lequel je ne veux pas prendre trop de risques non plus. Donc, je vais prendre Baltimore. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin, on retrouve les Packers qui se rendent chez les 49ers, un match qui sera sur W9, les amis, avec Luca Vola et Grégory Richard aux commandes. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, non, même pas vous connecter, à allumer votre télé, tout simplement, et appuyer sur le bouton 9, et hop, vous verrez Luca Vola et Grégory Richard, comment refuser un tel plaisir, quand bien même c'est à 2h15 du matin. On l'a dit pour les Ravens, c'est la même chose pour les 49ers, on attend de voir quel rythme vont avoir les titulaires. Parce que côté Packers, le rythme, on le connaît. C'est comme nous sur ce podcast, c'est à fond, à fond, à fond. Est-ce que ce qu'ils viennent de coller aux Cowboys change un peu la donne, les attentes autour de ce match, selon toi?
Alors, change un peu la donne, oui, les attentes, non. C'est-à-dire qu'ils ont mis 40-0 aux Cowboys en trois quarts-temps. Ça, c'est, enfin, à 47, oui. J'exagère un peu. Ou 40-10.
Mais ils ont écrasé.
Ils les ont écrasés. Donc, disons que ça change la figure du match parce que ça paraît tout de suite plus équilibré que ça ne l'était. Par contre, pour moi, ça ne change pas les attentes parce que demain, les Packers perdent deux matchs. Même, allez, demain, ils se font éclater. Alors, je dis demain, c'est samedi, hein, mais imaginons qu'ils se font éclater 45-10. La saison, elle est réussie. Je veux dire, globalement, les attentes n'ont pas changé. Il faudrait être déraisonnable pour dire « Ah oui, cette équipe, elle doit aller au Super Bowl, sinon c'est une déception. » Donc non, globalement, ils sont en bonne position, ils ont l'occasion d'exorciser les démons, parce qu'on rappelle qu'ils s'affrontent déjà en play-off en 2019, enfin du coup janvier 2020, Et ils s'affrontent aussi en janvier 2022 pour deux victoires des Niners, si je ne dis pas de bêtises. Dans la dernière, qui était un 13-10 ignoble, mais qui était une surprise absolument phénoménale. Donc
2020, c'est un peu plus en faveur de San Francisco, cette fois.
Non, mais oui, je crois même 37-20, il y avait du garbage time, parce que je crois que c'est un match qui part en vrille assez rapidement aussi. Mais globalement, non, je pense que c'est une jeune équipe. L'avantage, c'est que psychologiquement, ils ne vont pas penser au match d'il y a 2 ans, vu que la plupart n'y étaient pas. Donc, c'est une jeune équipe qui n'a rien à perdre, qui va jouer le coup à fond. Alors là encore, c'est un peu comme les Texans, si tu veux. C'est que finalement, quand tu regardes poste par poste, les Niners sont supérieurs sur tous les secteurs de jeu, sauf peut-être le quarterback, mais c'est un autre débat. Et pour le coup, je vois pas bien en fait comment cette équipe des Niners, tellement huilée, etc., va être mise en difficulté par cette défense. C'est-à-dire que cette défense, elle a été faible la plupart de la saison. Elle a fait un bon match la semaine dernière, c'est bien, mais confirmer, c'est encore plus dur. Et j'ai peur, je pense que les Packers vont mettre des points, mais j'ai peur qu'ils s'en prennent le double en fait. C'est un peu ça le problème.
Alors, moi, j'allais te donner déjà des éléments de réassurance un peu pour les Packers à la sortie du match qu'ils viennent de se faire. En l'occurrence, le rating de Jordan Love sur ce match de Divisional de Wildcard, c'est 157.2, qui est un record pour un premier match de playoff, pour un joueur qui joue son premier match de playoff, et pour un quarterback qui joue à l'extérieur. Donc ça fait quand même une très très belle performance qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là face à une équipe qu'on attendait bien plus forte aussi. D'ailleurs, au passage, CJ Stroud a le même rating. Hein, donc voilà, les deux ont sorti quand même.
À 2 yards près, ils font exactement la même ligne.
Ouais, c'est ça. Ce qui a marqué, et toi, t'en as parlé avec Lucas dans les débriefs, c'est la profondeur de l'effectif et les playmakers sur le match face à Dallas. Est-ce que c'est quelque chose qui doit inquiéter, entre guillemets, San Francisco, sachant que la défense des Niners, c'est probablement une des plus fournies de la ligue. Il y a quand même 4 Pro Bowlers dans cette défense-là. Est-ce que c'est quelque chose qui doit qui change un peu l'approche que les Niners peuvent avoir de ce match-là, sachant qu'ils ont dit que très tôt dans le match, ils ont préparé, gna gna gna, bon, ça c'était marrant.
Mais... Oui, mais je pense que c'est une très bonne analyse. Oui, Shanahan qui dit qu'à la mi-temps, il a commencé à préparer le match.
C'est bon.
On se rappelle que Shanahan, il était coordinateur offensif du 28-3.
Et de la défaite face aux Chiefs, où il se fait remonter 11 points, je crois.
Ouais, où il se fait remonter 10 ou 11 points dans le 4e carton, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, j'ai trouvé ça, le fait qu'il troll là-dessus, alors qu'il est responsable des 2 plus gros chokes de ces 10 dernières années. Ok, bon, si tu veux. Le fait est que là où je pense que c'est très bien identifié de ta part, et c'est en effet le seul point où les Packers vont être un peu supérieurs, je ne sais pas, mais en tout cas imprévisibles, c'est les defensive backs des Niners contre les receveurs des Packers. Parce qu'on a vu que Jaden Reed, je crois qu'il fait 0 réception, tout simplement, dans le dernier match, alors qu'il est le receveur numéro 1. Christian Watson, qui est le receveur numéro 2, il ne capte pas grand-chose, doit capter un ballon. Bah, du coup, c'est Romeo Doubs. Bah, du coup, c'est Luke Musgrave. Bah, du coup, c'est Tucker Kraft, etc., etc. Donc, on a l'impression que cette équipe, elle a 7 ou 8 joueurs qui vont changer à toutes les actions, qui vont tout le temps être frais et qui apportent plein de choses différentes. Donc oui, ça rend un côté imprévisible. Et du coup, ça peut mettre un peu en difficulté les safety et cornerback des Niners. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont marquer des points. Mais il va en falloir beaucoup derrière.
Côté Niners, on a évidemment des arguments à faire valoir aussi en attaque. Hein. Brock Purdy sort quand même d'une excellente saison. On a largement suivi et relayé ici les performances de Christian McCaffrey, qui est le meilleur coureur de la saison. Le meilleur gagneur de yards, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en plus d'être à égalité pour le titre de meilleur marqueur de touchdown, qui est à 21 comme Raheem Mostert. Donc il y a des arguments aussi, forcément, en attaque du côté des Niners. Est-ce que les défenses sont un peu le facteur X de ce match-là ? Je vais enfoncer une porte qui est déjà grande ouverte, et je m'en excuse d'avance, mais j'ai la sensation que l'équipe qui parvient à mettre un frein à la machine offensive adverse et celle qui peut l'emporter. Évidemment que si tu empêches l'autre équipe de marquer plus de points, tu gagnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'attends à ce que les deux attaques soient au top et soient capables de marquer beaucoup de points. Et finalement, celui qui va l'emporter, c'est la défense qui va le mieux résister, plus que d'être la meilleure défense des deux, mais celle qui est capable de mieux résister à la machine offensive qui se présente à elle. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça?
Oh, je pense quand même que la défense des Niners doit regarder les yeux dans les yeux à l'attaque. Ils ne sont pas censés souffrir non plus. Hein. Ils sont censés leur rendre coup pour coup.
Okay, okay.
Et l'attaque des Niners, bah, comme tu dis, c'est une des attaques les mieux coachées de la ligue. Tu tires le meilleur de Purdy, tu tires le meilleur de Kittle, tu tires le meilleur de Ayuk, tu tires le meilleur de Samuel, tu tires le meilleur de Samsi.
De Youssef, ouais.
Bref.
Je suis content parce que je sais prononcer son nom, donc j'en profite.
Ouais. Bah, écoute, apparemment, il n'y avait que lui dans le ballot du All-Pro. Mais pour le...
La défense des Niners.
Ouais, la défense des Niners, je suis désolé, mais il y a un moment, elle a maté plus fort que ça dans la saison. Donc, ils vont laisser des plumes, mais ils ne sont même pas censés souffrir. Je veux dire, pour moi, c'est le match le plus déséquilibré.
Ah, c'est une bonne... Ok, moi, je pas
tu te souviens que la semaine dernière... J'ai dit que le match le plus déséquilibré, c'était Bills Steelers. Tu m'as répondu que c'était Cowboys Packers. Tu as sous-estimé les Packers. Peut-être que je fais exactement la même erreur.
Bah attends, est-ce que finalement, il n'était pas très déséquilibré aussi?
Oui, non, mais d'un côté, tu avais raison. C'était le match le plus déséquilibré de la semaine.
Je ne peux pas avoir tort sur tout, Victor.
Non, mais je suis en train de dire que...
Je suis suffisamment la NFL pour avoir un peu raison.
Je suis en train de te dire que potentiellement, je fais la même erreur que toi.
Ah,
mais je pense vraiment que... Ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour les Packers.
Deux petites stats pour toi, pour éclairer ton pronostic. Les Niners ont gagné les 6 derniers matchs de Divisional qu'ils ont joués. Et l'année où les Packers ont gagné le Super Bowl, ils étaient le dernier seed de la NFC. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux de ces statistiques avancées. Qui a ta faveur sur ce match?
Les San Francisco 49ers.
Très bien. Eh ben, moi, je vais prendre les Green Bay Packers puisque Gregory Richard a joué les 49ers et qu'il faut absolument que je prenne des points.
T'en es là.
mais pourquoi pas, tu vois. Finalement, je me dis, allez, pas du tout.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
À 21h, dimanche. L'horaire change un peu. Dimanche, il n'y a pas de match à 19h. C'est 21h. C'est le match qui opposera les Lions de Détroit aux Buccaneers de Tampa Bay. Surprenant vainqueur des Eagles en wildcard. Surprenant non, Victor Roulier l'annonce depuis des semaines. Bien sûr, tu l'avais vu avant tout le monde. Non mais en revanche c'est incroyable, deux matchs de playoff à Détroit dans la même saison, c'est évidemment du jamais vu, alors que, et ça j'avais pas bien capté tu vois, mais c'est quand même le troisième divisional round en 4 ans pour Tampa Bay, j'avais pas bien ça en tête.
Oui et la seule année où ils gagnent pas la division c'est l'année où ils gagnent le titre.
Oui, en plus.
Comme quoi, hein.
Donc c'est pas pour cette année. Là en revanche, alors tu vois, tout à l'heure depuis tout à l'heure on donne des équipes qui ont soit un équilibre des deux côtés, soit un déséquilibre des deux côtés. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une force contre force entre l'attaque de Détroit et la défense de Tampa Bay. Est-ce que le match se joue là pour toi, Victor?
Oui, ça va être le point culminant. L'attaque de Détroit a été bonne contre les Rams. Pas rayonnante, mais bonne. Et là, il va falloir quand même affronter un groupe de vétérans qu'on a vu passer, quoi. J'ai fait un petit arrêt tout sage.
Dramatique.
Je m'excuse. Mais...
Non, mais tu vois, typiquement, l'affrontement Sam Laporta, Antoine Winfield, les deux sont All-Pro. Alors, Laporta est en deuxième équipe All-Pro, hein, mais y a plein de petites oppositions qui vont être assez stylées à voir dans ce match-là.
Oui, et puis Lavonte David, Shaq Barrett, etc. Ouais, c'est pas des joueurs qui en sont à leur coup d'essai. De l'autre côté, c'est la fougue de la jeunesse, et on a bien vu que la jeunesse en wild card a plutôt gagné sur l'expérience. Hein.
Ouais,
c'est que clair. La jeunesse des Packers, la jeunesse des Texans, etc., ça a plutôt bien réussi. Donc voilà, la fougue de la jeunesse. Mais en fait, je pense que, et on va y revenir, mais je pense que les Bucks ne vont pas marquer une myriade de points. Et du coup, en fait, Détroit a juste besoin d'en marquer suffisamment.
Combien tu dirais ?
Moi, je pense que 22 points et t'as gagné le match.
Plus de 3 touchdowns, donc.
Ouais,
voilà. Ok. Oui, non, mais c'est... Alors, effectivement, moi, je te rejoins un peu là-dessus. Maintenant, à l'inverse, qu'est-ce que tu attends de l'affrontement attaque de Tampa Bay versus défense de Détroit ? Parce que Baker Mayfield a sorti des stats records en wildcard pour la franchise, dépassant même un certain... comment il s'appelle ? Tom Brady, je sais pas qui c'est. C'est un mec qui a joué longtemps à Tampa.
Sigan.
Ok, bon, moi là, il s'y est. Enfin bref. Est-ce que. Tiens, allez, question troll exprès. Est-ce que Baker Mayfield est le meilleur quarterback de ce match ?
Non.
Allez, comme ça, c'est fait.
Non, après, voilà, moi je pense que. En fait, le problème, c'est qu'elle est imprévisible, cette équipe des Buccaneers. Parce que. Bon, elle a mis une fessée offensivement aux Eagles, mais les Eagles sont en perdition depuis un mois, je ne suis pas sûr que ça soit un exploit. Par contre, ils avaient mis, par exemple, une fessée aux Packers au Lambeau Field, tu vois. Ils sont capables de faire ça. Surtout que les Packers, je crois que c'est genre le seul match qu'ils perdent sur le dernier mois et demi ou un truc comme ça. Les Packers, ils sont capables sur un match de faire ça. Mais la réalité, c'est que 3 fois sur 4, c'était plus des prestations indigestes en attaque qu'on avait.
Panthers, les Saints, dans les derniers matchs, là, c'était pas ça. Hein.
Bah, Panthers et Saints, ils marquent quoi ? Enfin, les Saints, ils marquent 0 points quand ça compte. Zéro. Et
9 face aux Panthers, je crois.
Puis même face aux Falcons, etc. Enfin, il y a eu un nombre de prestations indigentes qui fait que je pense que c'est une équipe qui peut pas faire 3 bonnes prestations d'affilée et c'est les seules que je vois pas du tout aller au Super Bowl. Donc, n'hésitez pas à enregistrer ce passage. Pour quand les Bucks seront au Super Bowl, évidemment. Mais pour le coup, voilà, ils peuvent s'enflammer sur un match et ils peuvent le voler. Ça, je ne dis pas le contraire. Après, je pense que, sauf mon respect pour Philadelphie, battre les Eagles et battre les Lions, en ce moment, ce n'est pas vraiment la même chose. Et surtout que cette défense des Lions, là encore, elle est un peu à l'image de l'attaque des Buccaneers, quoi. Elle est capable de bien faire comme elle est capable d'être catastrophique. Mais contre les Rams, globalement, ils ont tenu à peu près le match.
Ah oui.
À voir comment ça se passe. Mais je pense que malgré tout, des deux côtés, je donne un petit avantage à Détroit.
Ok, bah, ça me va aussi. C'est pour ça que je vais jouer les Buccaneers, puisque tout le monde a pris les Detroit Lions. Donc pareil, stratégie, prenage de points. C'est le craquage qui attend les Lions, bien sûr. Moi, j'en suis convaincu. Donc, on verra ce que ça donnera.
Potentiellement, leur première finale de conférence de l'ère du Super Bowl. Quoi.
Ah bah, évidemment. Ça, on n'avait jamais passé un tour de play-off. Donc, toi, tu prends, évidemment, Détroit. On va finir dans la nuit de dimanche à lundi avec, je pense, mon affiche préférée de ce tour de Divisional. Les Bills qui reçoivent les Chiefs. Fait incroyable, Victor, c'est la première fois que Patrick Mahomes va jouer un match de play-off à l'extérieur. Alors, hors Super Bowl, évidemment. Voilà, il a joué 12 matchs de play-off, en tout cas divisional, wildcard et finale de conf. Il en a gagné 10. De manière générale, de toute façon, Josh Allen et Patrick Mahomes, c'est 6 victoires chacun depuis qu'ils s'affrontent. Et la dernière fois en play-off, vous le savez, c'était le divisional en 2021 avec ce match de fou furieux, 3 changements de leader dans la dernière minute, les field goals qui arrasent l'égalisation sur un field goal de 49 yards pour gagner en prolongation. Bref, est-ce que toi aussi, Victor, cette affiche, elle t'excite ? Voilà, disons les termes.
Oula, je ne saurais comment répondre.
Allez.
Petite interlude de 30 secondes. J'ai vérifié parce que j'avais un doute. En 91, quand ils gagnent leur match de playoff, c'est un match divisionnal. Donc, ils ont joué déjà une finale de conférence où ils avaient perdu contre les Washington avec le nom qu'on ne peut plus prononcer. Pour répondre à ta question, oui, je suis ultra excité par ce match. Pourquoi ? Parce que les 13 secondes, les fameuses 13 secondes qui ont permis aux Kansas City Chiefs de battre les Bills, elles ont littéralement changé la trajectoire de ces deux franchises. Ça a été un match, on va dire, terrible. Et là, si tu veux, on est sur des Lions, des Bills, décidément, qui ont gagné 7 matchs d'affilée. C'est l'arc de rédemption, tu sais. Dans les mangas, ouais. Tu as toujours cet arc de rédemption du semi-méchant, semi-gentil qui finalement arrive au sommet. Il va même se sacrifier à la fin parce que c'est un héros. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça, en fait. Et Josh Allen, je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, mais il y a un moment, le mec marque 40 touchdowns plus 5 milliards si tu comptes le sol et les airs. Et tout le monde le regarde en mode, ouais, c'est bien, mais il y a peut-être un peu trop d'interceptions. Sachant que les interceptions, en général, c'est des bombinettes de 50 yards en 3 et 20. Mais de toute façon, lui, il a un bras tellement puissant que autant qu'il lance une interception, c'est mieux qu'un punt. Mais globalement, Josh Allen face aux Steelers, il a été absolument à l'image de cette saison. Il a porté littéralement son attaque sur le dos. Il a fait contribuer ceux qui pouvaient contribuer, Knox, Kincaid, Dix, Cook. Enfin, il a distribué. Et moi, je pense vraiment que c'est le match. Ouais, ou peut-être pas tout est pardonné, mais en tout cas, c'est le match où les Bills, pour l'histoire, quoi, prennent leur revanche pour enfin atteindre cette finale de conférence.
Les deux équipes, hein, tu parles de la bonne victoire des Bills, mais les deux équipes sortent de victoires assez convaincantes, en attaque comme en défense d'ailleurs. Maintenant, ça, là, comme on l'a dit pour le match précédent, il y a une opposition qui est quand même assez marquée, force contre force, qui est celle de l'attaque de Buffalo contre la défense de Kansas City. Tu es d'accord avec moi ?
Oui. Globalement, je pense que c'est... Je dis oui parce qu'il y a quand même Mahomes que tu peux jamais...
Évidemment,
tu vois,
on va parler après.
Et je suis d'accord, si on parle des
force
squats...
Force contre force, actuellement.
Oui, si on parle des squats, t'as cette attaque des Bills. Je maintiens qu'il est moyenne plus et que Josh Allen rend incroyable. Face à cette défense, toujours plus surprenante de Kansas City... faite de beaucoup de jeunes joueurs et qui, semaine après semaine après semaine, a martyrisé tout le monde dans cette ligue. Donc, globalement, les Chiefs sont une équipe défensive, on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison. Et là encore, les Bills, on a l'impression qu'il faut marquer un certain nombre de points et tu seras tranquille. Bon, là, je vais, comme il y a Mahomes en face, je vais dire 28 points et pas 22, tu vois. Mais malgré tout, oui, ça va être une opposition de style absolument phénoménale.
Mais c'est un peu, je fais forcément de suivre sur le cas Mahomes, parce que c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, quand tu joues en play-off avec les Chiefs et Patrick Mahomes, il y a une espèce de bonus un peu de capacité. J'en veux pour preuve que les 5 dernières finales AFC, il y avait les Chiefs qui les jouaient. Andy Reid a 23 victoires en play-off dans sa carrière. Sean McDermott, que j'adore par ailleurs, n'en a que 5. Donc, ils n'ont pas l'avantage sur ce match-up-là.
Que 5, c'est dur. Hein, parce que déjà, un entraîneur qui a 5 victoires en play-off, il n'y en a pas 200. Hein.
Je donne la comparaison entre
J'entends.
Qui est le deuxième coach le plus victorieux de l'histoire des play-offs versus Sean McDermott. Encore une fois, j'ai un énorme respect et admiration pour Sean McDermott. Et 5 victoires de play-off, c'est très, très bien. Surtout quand tu vois comment il a repris l'équipe et où elle en était au départ.
Je suis d'accord avec ça.
Mais... En tout cas, donc voilà, là-dessus, le match-up est toujours en faveur des Chiefs. Un truc qu'on peut éliminer en revanche, puisqu'on en a largement parlé pour les deux équipes d'ailleurs sur les matchs de wildcard, les deux ont l'habitude de jouer à l'extérieur et dans le froid. Donc là, on va pas aborder ce sujet-là. En revanche, est-ce que le fait que ce soit à l'extérieur, en tout cas pas à Kansas City, qui est quelque chose dont les Chiefs n'ont pas trop l'habitude en play-off, est-ce que selon toi, ça peut jouer à ce moment-là ?
Ah, ça peut. Mahomes n'a jamais connu ça, tu l'as rappelé tout à l'heure. Il n'a joué que des matchs à domicile dans toute sa carrière.
C'est complètement fou.
C'est complètement fou.
C'est complètement absurde.
La seule fois où il aurait pu jouer à l'extérieur, les Titans, qui étaient en série numéro 1 en choke. Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça peut jouer. Après, moi, je suis inquiet pour l'attaque, on va dire, hors Mahomes. Parce que je trouve toujours que leurs tackles sont pas très bons. Parce que je trouve toujours qu'au niveau des receveurs, à part Rashi Rice, il n'y a pas grand-chose.
Et Travis Kelce, non ?
Bah, Travis Kelce, écoute, je suis désolé, mais sa saison est pas bonne. Et sa fin de saison est catastrophique. Je veux dire, sur le match de White Card, il fait deux ou trois drops, dont un où c'est un touchdown de 50 yards. Il coûte plus de points qu'il n'en marque en ce moment à son équipe. C'est un vrai problème. Là, aujourd'hui, il y a un problème, Travis Kelce. Donc,
je ne peux pas dire ça. Grâce à lui, il y a Taylor Swift qui vient en NFL. C'est trop bien.
Je suis très content pour lui qu'il ait trouvé quelqu'un. C'est plus important. C'est plus important d'être aimé que de gagner une bague. Mais
peut-être en offrir une. Hein,
oui, j'allais dire.
Ça arrive.
Quoique, être aimé peut apporter une bague. Mais ça, c'est un autre problème. On ne parle pas de cette bague-là. Écoute, non, mais là, sur le plan purement sportif, aujourd'hui, il est mauvais. Alors, ça fait de lui clairement le facteur X pur et dur.
Oui.
Parce que même s'il n'est pas bon ces 3, 4, 5 dernières semaines, à tout moment, il redevient Travis Kelce, il te fout 145 yards, 3 touchdowns, et tout le monde dit, ah là là, Kelce a marché sur la défense des Bills. Surtout que, alors apparemment, Tyrell Bernard, qui est sorti blessé, serait potentiellement disponible pour ce match, mais déjà qu'il y avait eu la blessure de Matt Milano, maintenant il y a la blessure de Tyrell Bernard, il ne va plus rester beaucoup de linebackers pour couvrir Kelce. Donc, peut-être que ça va être lui aussi le match de la rédemption. Quelle rédemption va l'emporter, Josh Allen ou Travis Kelce? Mais il a une bonne tête de facteur X.
Très bien. Eh bien écoute, je te propose de donner ton pronostic sur ce match.
Alors, je vais te dire. Si j'étais objectif,
oula,
je te dirais que les Chiefs ont eu 48 heures de repos en plus que les Bills.
C'est vrai.
Ce n'est pas négligeable. Je vous rappelle, le match des Bills a été,
surtout en play-off, repoussé.
Ce n'est pas négligeable. 48 heures, c'est énorme. Cela étant dit, je suis un Josh Allen boy depuis le début, et je serai toujours. Donc, quitte à perdre de points, je mise sur les Bills parce que Josh Allen forever.
C'est le match le plus serré dans la rédaction. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas unanime. Enfin bon, si on enlève les pronos débiles que je fais. Mais c'est le seul qui n'est pas unanime, puisqu'il y a trois rédacteurs qui pronostiquent en faveur des Bills et trois en faveur des Chiefs. Et je fais partie de cette dernière escouade. Je vais prendre les Kansas City Chiefs. À l'expérience et au fameux bonus Patrick Mahomes en playoff. On a dit que l'expérience n'était pas forcément ce qui faisait gagner les matchs cette saison, en tout cas en wild card. Mais ouais, un peu comme les Browns et les Texans en match de wild card, quelle que soit l'équipe qui gagne, je serai content. Voilà. Donc voilà, ça me va bien de prendre les Chiefs et de dire que c'est eux qui l'emporteront sur ce match-là. Si on fait le compte, j'ai quand même pris trois équipes qui gagnent à l'extérieur sur quatre. Figure-toi que les équipes à l'extérieur ont plus gagné que perdu sur les deux dernières années en divisional. Puisqu'il y a 5 victoires sur 9. Alors, je crois que du coup, ça veut dire qu'on enlève les premiers matchs où ce n'était pas le cas une année. Bon, c'est pas terrible comme stat, mais c'est une stat de NFL. Vous en avez l'avis.
Sur 9, attends, parce que il y a 4 matchs par an. Donc, comment ça peut être sur 9?
Ben, j'imagine que le dernier match de la saison d'avant, chronologiquement.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça, c'est de la stat taillée pour.
Ah ben, bien sûr. Ouais, on arrête la série au moment où ça nous arrange.
Je vois.
Sinon, ça fait, 6 sur 11 et c'est nul.
Ouais,
c'est 6 sur 10. Voilà pour les pronos, les affiches, les previews de toute cette semaine de Divisional. On va quand même finir le podcast après le jingle par les meilleures cotes. Alors, les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet, comme toujours, n'oubliez pas de passer par le lien qui est présent sur touchdownactu.com pour aller faire vos paris en ligne sur la NFL. Victor, cette semaine, j'ai préparé, contrairement à la semaine dernière, des stats avancées avec des cotes un peu plus
fourni que juste le vainqueur de chaque match. Donc on peut faire deux tickets si tu le veux. On peut faire un premier ticket avec trois codes sur les quatre matchs qui nous intéressent pour choisir le gagnant. Sauf que bon, bah là vous allez voir que ça va pas être trop triste vu que bah, les codes sont quand même assez marqués vainqueur, favori, pas favori. Et ensuite on fera un deuxième ticket avec des choses un peu différentes. Vous me direz ce que vous en pensez. D'abord, qu'est-ce que tu voudrais mettre sur ton premier ticket? On peut vous donner toutes les cotes, hein, puisqu'il n'y en a que 8. Les Ravens et les Texans sont les Ravens qui sont favoris à 1,16, les Texans à 3,58. Les Niners et les Packers, évidemment les Niners sont favoris à 1,17, donc quasiment le même score, et les Packers à 3,50. C'est un tout petit peu différent, les Lions face aux Bucks sont à 1,29 et les Buccaneers 2,75. Et là où c'est le plus serré, c'est le dernier match entre les Bills et les Chiefs, puisque les Bills sont à 1,59 et les Chiefs à 1,96. D'ailleurs, les parieurs ont plus voté pour les Chiefs que les Bills, si j'en crois les pourcentages qui sont inscrits sur Unibet. Il y a plutôt 58% des gens qui parient pardon, en faveur des Chiefs. Qu'est-ce que tu voudrais mettre dans ton combiné, Victor?
Bon, il faut y aller YOLO directement, parce que ça ne sert à rien de faire des cotes à 1,15. Texans, Packers, Chiefs. Bam.
Texans, Packers, Chiefs. Donc tu crois pas du tout dans les Buccaneers.
J'ai un peu plus de mal. Non, encore une fois, sur un match aussi, ils peuvent totalement le faire, mais ouais, j'ai un peu de mal.
Okay.
Mais on peut les rajouter si tu veux pour faire un full YOLO. Hein.
Ah bah alors, allons-y. Faisons le full YOLO pour que vous ayez une indication. Les Texans à 3,58, les Packers à 3,50, les Buccaneers à 2,75 et les Chiefs à 1,96. Les quatre équipes à l'extérieur, d'ailleurs. Pour 5 euros de misée, vous avez une cote de 67,54 et donc un gain potentiel de 337,68 €. Pas mal. Maintenant, si vous voulez faire des choses un petit peu plus rigolotes, et c'est possible avec Unibet, j'ai noté pour vous un petit ticket. Tu me dis ce que tu en penses, Victor, et puis on pourra éventuellement regarder si on change des choses. Moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est un touchdown de Sam Laporta pour les Lions. La cote est à 2,40.
Ça veut dire qu'il contourne avant le TD vide, mais ok, je te suis.
J'aimerais bien mettre un vrai shootout, donc un duel de pistoleros, si vous voulez, entre les Ravens et les Texans. Je crois qu'il y a moyen qu'il y ait beaucoup de points. Et je pense qu'il peut y avoir plus de 50 points marqués en cumulé dans ce match. Donc, les deux équipes au-dessus de 25, ou alors une à 30, une à 20.
Ouais, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît raisonnable.
La cote est à 2,55.
Ok.
Et pour le bouquet final, je vous propose la spéciale Chiefs en playoff, à savoir les Bills qui mènent à la mi-temps et les Chiefs qui gagnent le match, prolongation incluse. Une cote à 8. Celle-là, elle est belle.
T'es un troll terrible. T'es un troll non terrible.
Mais non. Pourquoi un troll?
Non, mais t'as raison.
Franchement.
Ça se joue. Allez, vas-y, mets-le.
La cote est à 8. C'est beau. Moi, j'aime bien.
Vas-y.
Donc, le touchdown de Laporta, les 50 points marqués ou plus, enfin c'est 50,5 points marqués donc entre les Ravens et les Texans à 2,55 et les Chiefs qui gagnent alors qu'ils sont menés à la mi-temps à 8, pour 5 euros misés, vous avez 244 € de gain potentiel. Moi j'aime bien ce petit ticket, voilà, je vous le dis comme ça.
Bah écoute, pourquoi pas, c'est pas choquant pour le coup, c'est pas choquant. Vous allez sûrement perdre cet argent, c'est ne jouer que ce que vous pouvez perdre.
Évidemment.
Mais au moins, ça change un peu.
Ça change un peu, donc tu l'as bien dit, Victor, ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, puisque, évidemment, il faut faire attention dans ce genre de pari, et toujours garder le contrôle, faites-vous aider si vous sentez que ce n'est plus le cas. Et bien voilà, on a fini cet épisode de preview du Divisional Round, on a été presque succinct, Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts TD Actu sur vos plateformes audio préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser plein d'étoiles. Vous pouvez retrouver le contenu TDA sur le site tdactu.com, mais sur les réseaux sociaux. On vous y attend toujours aussi nombreux. Et puis, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, gagner plein de goodies, enfin gagner, avoir droit à plein de goodies TD Actu. Vous pouvez aussi acheter des bonnets. Tiens, d'ailleurs, merci à notre partenaire Brooklyn Fizz qui permet d'acheter les bonnets TD Actu directement sur leur site en ligne. Donc, regardez sur le site, vous pourrez trouver ça. Et puis, merci beaucoup, Victor.
Merci à toi, Raoul. Merci à tous.
Je crois pas qu'il y ait d'épisode de preview de la conférences. Je crois que c'est le dernier épisode de preview de l'année.
Ah non, tu rigoles. Mais il y a toujours un épisode après, de preview des finales de conférence, monsieur. Mais en fait, on n'est pas ensemble, mais il y en a.
Ah oui, bah, y en a un, mais je ne serai pas là. Ah bah, c'est mon dernier épisode de preview.
Mais moi, je serai là, moi.
Toi, tu seras là avec un certain Alain Mattei.
Je ne le connais pas, mais sûrement très bien.
Quelqu'un de très bien.
Hâte de le rencontrer, en tout cas.
Tu m'étonnes. Tout ça pour dire que merci à toutes et tous de m'avoir écouté, en tout cas de m'avoir accompagné pour ces épisodes de preview toute la saison. Mon aventure Touch de la Cune ne s'arrête évidemment pas là, ni cette saison, ni toujours. Mais je ne suis pas comme Jason Kelsey à faire des fausses annonces de retraite. Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner cette saison. Donc profitez bien de vos prochains podcasts. Il y a un draft demain ou pas?
Il y a un draft et on va parler de linebacker.
Magnifique. Eh bien, rendez-vous demain pour le prochain podcast Touch dans la Q et rendez-vous sur touchdanslaq.com pour tout le reste de l'actualité sur la NFL et sur la fin des playoffs et le Super Bowl qui arrive. Donc, restez connectés. Merci beaucoup à toutes et tous. À très bientôt. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.